Salut Jérôme, comment ça va?
Salut Jean-Philippe, super.
Dis-moi, mais t'as pas écrit un livre, toi?
Si, en 2019 puis 2021.
Ah, t'as écrit plusieurs livres?
En fait, c'était le même, mais qui a été réédité, donc un peu modifié.
Ah, et tu penses que t'aurais pu l'écrire avec de l'IA ou te faire aider par l'IA?
J'aurais été tellement plus vite. Mais il faudra que je demande à mon éditeur, surtout.
Ah ben justement, tu vois, aujourd'hui on va parler IA et édition. Allez, on se lance?
Allez, parlons IA et édition, on se lance.
Let's go. Parlez-moi d'IA.
Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis un super ordinateur Carl, cerveau analytique de recherche et de liaison.
C'est une machine qui ressent les choses.
On nous raconte n'importe quoi sur l'IA.
Alors, qu'est-ce que tu en dis, Kit?
Moi, je n'en dis rien du tout.
Que la créativité, elle reste du côté de l'humain.
Bonjour à toutes et à tous, je suis Jean-Philippe Clément, bienvenue sur Parlez-moi d'IA. Nous allons nous donner 30 minutes pour nous interroger sur le phénomène intelligence artificielle. Qu'est-ce que l'IA peut bien nous apporter, ou rien, ou pas? Quelles sont les questions sociales, culturelles, éthiques et pourquoi pas politiques que l'IA soulève? Cette semaine, on revient sur un domaine d'activité qui exacerbe les passions quand on le rapproche de la flamme de l'intelligence artificielle, l'édition. Presque 2 ans après l'explosion de ChatGPT, quelles sont les relations « je t'aime moi non plus » que entretiennent l'édition et l'IA?
Cause commune 93.1 FM.
Vous êtes bien sûr Cause commune, la radio des possibles, la voix des possibles. Merci à notre directeur d'antenne Olivier Gréco de nous permettre cet espace de liberté et d'échange. Cause commune que vous pouvez bien sûr retrouver sur cause-commune-au-singulier.fm et toutes ces apps mobiles Android et iPhone, sur la bande FM 93.1 et le DAB+, et en podcast sur votre plateforme préférée. Si cette émission vous plaît, merci de vous abonner, surtout de prendre 5 secondes pour nous mettre peut-être 5 étoiles sur Apple Podcast, un petit pouce bleu sur YouTube, c'est notre seule récompense. Et ça nous fait connaître, car ça manipule les algorithmes. Et c'est cool de manipuler les algorithmes.
Vous écoutez Parlez-moi d'IA.
Aujourd'hui, nous continuons notre tour d'horizon des domaines d'activité qui vont certainement être impactés par l'usage des algorithmes et de l'IA au sens large, avec le domaine de l'édition. Nous avons déjà reçu ici, en mars 2023, Stéphanie Lecam, universitaire et directrice de la Ligue des auteurs pro. Bon, Parlez-moi d'IA numéro 23, hein, si vous ne l'avez pas encore écouté. On avait abordé des questions à ce moment-là du copyright et de l'autorat avant la finalisation de l'IA Act. Depuis, l'IA Act, la législation européenne, a été votée. De nombreux faits marquants sont venus ponctuer l'histoire récente que l'édition entretient avec l'IA. Cela a formé des camps vis-à-vis de l'IA. Plusieurs tribunes et pétitions ont vu le jour pour appeler à la vigilance et parfois au moratoire. Mais certains, dans la sphère de l'édition, cherchent quand même à comprendre la vague, à tester la vague, peut-être à essayer de la surfer. C'est vrai que l'IA générative bouleverse tout et pourrait provoquer des changements de paradigme irréversibles dans ce domaine. Ces acteurs de l'édition ont-ils raison d'essayer? Se mettent-ils en danger, et avec eux la créativité et l'exception de l'édition française? Ces questions méritent d'être posées. Et avec nous aujourd'hui pour y répondre, une spécialiste, toujours en veille sur ces sujets, une journaliste et enquêtrice qui travaille pour Livre Hebdo, pour Télérama, pour plein d'autres titres de presse. Bonjour Pauline Gabinari.
Bonjour.
Bienvenue sur le studio et sur le plateau de Cause commune. Pauline, parlez-moi d'IA. Vous suivez le phénomène IA de près, hein, depuis qu'il a explosé. Quelles ont été les premières réactions finalement du monde de l'édition, si on remonte un peu en novembre 2022, au moment justement de l'arrivée grand public du modèle ChatGPT?
Alors les premières réactions, elles ont été vraiment freinées des cas de fer, c'est-à-dire qu'on a eu énormément de tribunes, que ce soit du côté des auteurs, des traducteurs, vous avez reçu Stéphanie Lecam de la Ligue des droits de la Ligue des auteurs professionnels.
Oui.
Pareil, beaucoup d'interventions dans les facultés, etc.
Pour dire attention, quoi.
Pour dire attention, et aussi, en fait, au-delà de dire attention, et c'est la principale problématique de l'intelligence artificielle générative, c'est de dire, on utilise aujourd'hui des œuvres qui sont pillées. Comment ça peut être possible, comment ça peut être normal, comment ça peut être autorisé. Et au fur et à mesure, finalement, un an après, les gens sont toujours en désaccord avec ça, mais
s'ouvre un peu.
Constaté, elles s'ouvrent un peu et puis n'ont pas le choix. Par exemple, fait assez rigolo, il y a une des... une des écoles de formation de journalisme, le CFPJ, qui est une école privée, qui propose cette année notamment un cours pour l'aide à l'écriture journalistique avec l'intelligence artificielle. Donc je l'ai appris hier. C'est des choses qui sont complètement curieuses.
Même les formations s'adaptent, quoi.
Exactement.
De ne pas laisser le phénomène se passer sans eux. D'accord. Et du coup, quand on regarde, donc vous écrivez beaucoup sur le sujet, notamment sur Livre Hebdo, et vous relatiez en fait ce premier fait marquant de la fin 2022, donc qui est juste au début du phénomène. Alors pas sur le texte, mais plutôt sur le côté génération d'images, et vous relatiez ce fait de la maison d'édition Michel Lafon, qui avait produit une couverture. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ils ont fait, comment ça a été vécu par le domaine, par la sphère?
Oui, et ben en fait, donc ce qui a été assez particulier avec cette génération d'images, mais ça a été le cas après avec d'autres images, donc c'est qu'on a utilisé un autre logiciel qui est hyper connu, Midjourney. Et plutôt que de faire appel à quelqu'un qui crée des couvertures, ils ont demandé à, en mettant des ce qu'on appelle un prompt. J'imagine que vous en parlez ici.
On en parle un petit peu.
pour générer cette image, mais ils ne l'ont pas assumé. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est particulier et quelque chose qui est une des principales différences, en fait, avec aujourd'hui, c'est qu'il y a un an, on faisait les choses sans les assumer. Il y a eu aussi exactement cette couverture. Alors, je crois que c'était un hors-série du Monde sur les Vikings,
oui,
qui avait été généré par une intelligence artificielle qui était truffée d'erreurs. Et pareil, c'était vraiment pas du tout assumé. Et donc, maintenant...
Ça a été repéré et ça a été un petit peu dénoncé, quoi.
Exactement. Et maintenant, il y a au contraire des éditeurs qui vont l'assumer. Fayard, notamment, qui a lancé sa collection, pardon, de bandes dessinées.
Oui.
Où ils ont fait la promo sur le fait que c'est dessiné par une IA. Dessiné.
Oui, qui a une partie de leur production qui peut être générée par les IA. Est-ce que finalement il n'y a pas trois camps? Il y a les contre, complètement contre. Il y a les pros, mais alors ceux-là, ils se cachent un peu, pour le coup. Ils font des choses, mais ils ne le disent pas. Et puis, l'espèce d'entre-deux. Et du coup, ce que vous dites là, c'est-à-dire que Fayard, finalement, finit par s'y mettre dans une collection BD en disant, moi, la collection BD, moite-moite, quoi. Je vais pas m'en priver.
Alors, je dirais que ceci, ce qu'ils ont fait, mais alors, on le retrouve un petit peu moins ces derniers temps, c'est qu'ils ont utilisé l'intelligence artificielle comme un outil marketing. Je pense aussi à cet ouvrage écrit par Raphaël Doan,
oui,
et Si Rome n'avait pas chuté, qui, pareil, en fait, il y a eu un moment où l'intelligence artificielle était assez nouvelle pour...
Faire un peu de hype avec le...
Exactement, oui. Maintenant, c'est plus possible parce que tout le monde sait ce que c'est et tout le monde sait comment ça marche.
Et donc aujourd'hui, il faut assumer, en plus il faut assumer une production qui n'est pas du tout mise en avant du point de vue de l'IA et de l'originalité de l'IA sur le produit qui est mis en avant. Ça pose quand même donc beaucoup de problèmes aujourd'hui avec les illustrateurs. Comment c'est, vous avez rencontré des illustrateurs, ce domaine-là, comment c'est vécu, comment ils voient les choses? Est-ce qu'il y a des mouvements en particulier?
C'est vécu exactement de la même manière que pour les traducteurs, c'est-à-dire que c'est très mal vécu. Déjà, d'un point de vue valeur, on perd beaucoup de valeur de soi-même quand un robot peut faire notre travail, même s'il le fait souvent beaucoup moins bien. Et aussi, c'est mal vécu d'un point de vue financier. Sans dire de bêtises, c'est quand même vraiment beaucoup moins cher d'utiliser une IA pour générer une image, pour générer une traduction. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'illustrateurs et de traducteurs qui se retrouvent, notamment ceux qui vont débuter. En fait, donc, dans ces métiers qui sont assez précaires depuis un petit bout de temps, on se retrouve, en fait, quand on est traducteur, qu'on arrive sur le marché, ou illustrateur, à vouloir tout simplement faire ce qu'on appelle des illustrations ou des traductions, comment dire, de... pour avoir un petit peu d'argent.
Ouais.
Donc ça va être traduire ou illustrer un livre de yoga par exemple, ouais. Rien d'incroyable. Et en fait toutes ces petites choses qui nous permettaient d'avoir un peu d'argent et petit à petit de monter en puissance pour aller
se faire connaître,
exactement.
Ouais, bien sûr.
Pour aller vers des projets plus ambitieux, ça c'est plus possible aujourd'hui. Donc on se retrouve à avoir soit des traducteurs illustrateurs qui sont rentiers et qui n'ont pas besoin de vivre de leur production, soit des gens qui vivent bien en deçà du seuil de pauvreté.
Et qui en plus prennent le, enfin il y a un risque qu'on les voit pas émerger puisque du coup ils feront pas ces petites premières tâches ou ces premières petites missions.
Exactement.
Parce qu'elles sont trustées du coup maintenant par l'IA. Oui, c'est quand même problématique. C'est vrai que pour le coup, on risque d'avoir une génération sacrifiée par rapport aux illustrateurs qui en plus n'auront pas cette capacité comme les traducteurs à pouvoir éventuellement avoir un travail de superviseur. Il n'y a pas de supervision de la production graphique. Finalement, la personne qui génère l'image, elle est contente d'elle ou pas. Mais il n'y a pas vraiment de retouche généralement sur ces types de couvertures, quoi.
Tout à fait, même si pour le traducteur c'est quand même un métier complètement différent. Je suis pas sûre sur le mot technique, mais post-traduction on va dire. Parce qu'en fait ça n'a rien à voir. C'est très très dur d'avoir un texte qui est déjà traduit et devoir avoir un retour critique dessus. C'est un travail qui est très particulier, qui est très différent du travail de traduction créatif.
Oui, et puis encore une fois, ça vient pas de nous immédiatement, donc on est vraiment en train de relire quelque chose de quelqu'un d'autre.
Exactement, ouais. C'est exactement ça, oui.
Donc sur le texte, justement, vous l'avez un peu évoqué, il y a cette anecdote sur la création par... Alors, c'est marrant parce que donc le groupe s'appelle Humensis.
Humensis,
c'est un groupe d'édition. Ils ont créé une sorte de société spécialisée à l'intérieur du groupe qui s'appelle Vestigia. Et qui justement vous l'avez évoqué, a produit un texte assumé, en tout cas coécrit, assumé en coécriture, du coup qui s'appelait Si Rome n'avait pas chuté. Et du coup, enfin, vous pouvez nous raconter cette histoire, comment c'est arrivé dans les rédactions, comment ça a été vendu aux rédactions, et puis qu'est-ce que ça a donné finalement ce livre?
Eh ben, d'un point de vue marketing, c'était très très fort parce que donc Humensis, là c'était aussi donc le groupe, enfin la maison d'édition Passé Composé qui est dans ce groupe-là, puisque finalement toutes les maisons sont dans un énorme groupe hein, aujourd'hui. Et la chose qui était folle, c'est que c'était la première fois qu'une maison dont on dit qu'il est sur la place publique.
Oui, pignon sur rue. Hein.
Exactement, pignon sur rue, qui assume ça et qui en fait un outil de communication. Donc, il y a eu c'était super malin, en fait, parce que les rédactions, moi, je me rappelle, donc c'était Télérama qui m'avait appelé en me disant, ben, il faut absolument faire quelque chose, c'est incroyable, il faut le questionner là-dessus. Mais en réalité, l'ouvrage était ni incroyable, les images aussi générées par Midjourney, parce qu'il y avait de l'écriture et de l'image, étaient quand même, ma foi, bien médiocres. Et l'auteur était fort sympathique. Mais au-delà du côté fun et insolite, je suis pas sûre que l'ouvrage avait tant de plus...
Ça s'est vendu.
Ça s'est vendu. Ça s'est vendu, mais pas si bien finalement.
On connaît les chiffres du coup.
Il me semble que c'est 5000 exemplaires, un petit peu moins peut-être.
Ouais.
En tout cas sur GFK, qui est le site qui génère un petit peu, qui regarde un petit peu le nombre de ventes.
Bon, donc au final, ça, à part le coup marketing, il n'y a pas eu un effet tout d'un coup. C'était pas le best-seller du siècle.
C'est pas le best-seller du siècle. Après, bon, ça reste des très bonnes ventes parce que même si on nous parle à chaque fois des best-sellers vendus à 100 000, 200 000 exemplaires, en réalité, un livre n'atteint très rarement les 1000 exemplaires vendus. Donc ça reste un bon coup, ouais. Surtout pour un livre d'histoire, hein, parce que c'est des livres qui n'ont pas trop la cote. Hein.
Il y a aussi cette histoire du Goncourt, enfin de l'équivalent Goncourt japonais. Donc là, on imagine que du coup, ça a été plus vendeur.
Oui, alors donc sur le prix, donc c'est le prix Akutagana. Désolée, ouais. J'imagine que je n'ai pas la bonne prononciation.
Ah bah, je peux pas vous aider.
C'est quelque chose qui s'est passé il y a quelque temps et qui a été qui a affolé un petit peu la sphère culturelle, qui ne s'est pas reproduit en France, bien évidemment. Mais donc une autrice, Rikudan, qui a écrit un livre qui s'appelle Tokyo Todojo To, il me semble. Mm-hmm. Et donc, une fois qu'elle a eu le prix, elle assume, elle dit, voilà, 5% de mon livre ont été écrits par ChatGPT.
Ah, après coup.
Après coup.
D'accord.
Mais face aux médias un petit peu insistants, elle dit, oulala, non, mais moi, je vous arrête tout de suite. Si c'était à refaire, je le referais. Et d'ailleurs, je l'utiliserai plus pour mes prochains livres. Donc, on est dans quelque chose qui est complètement assumé.
Elle réassume derrière.
Ça a créé de la peur en France parce que une des questions qui revient le plus souvent, c'est est-ce que le prochain concours sera écrit par une IA?
Oui.
Mais en réalité, ce qui est dommage, c'est que ça couvre le réel problème qui est, comme je le disais tout à l'heure, le piège des données. Parce que la réalité de l'écriture créative est intéressante, mais c'est pas ça en fait le vrai enjeu. Le vrai enjeu, c'est qu'aujourd'hui, des auteurs sont pillés dans leur œuvre intellectuelle.
Parce qu'ils servent de source.
Ils servent
à l'entraînement des modèles.
Exactement. Avec donc il y a plusieurs entreprises qui ont des IAG qui ont utilisé et qui ont assumé ça. Des corpus de textes qui sont pillés, qui sont piratés. Il n'y a pas de débat là-dessus.
Ouais.
Et aujourd'hui, les auteurs ne sont pas rémunérés. C'est quelque chose qui est le plus gros problème, selon moi, aujourd'hui.
On reviendra juste après la pause musicale que je vais vous proposer maintenant, justement, sur c'est quoi les manières de réagir pour le monde de l'édition face à ce pillage, et est-ce qu'il y a un peu des deals potentiels à imaginer entre le monde de l'IA et le monde de l'édition. Donc, merci pour ces premiers partages de premières parties d'émission. Alors, pour la pause musicale, ce qui est bien avec les algorithmes, c'est qu'ils comprennent assez vite que ce que vous recherchez. Et moi, sur YouTube, en fait, il a bien compris l'algorithme que je cherchais à découvrir des nouveaux talents. Et je vous propose aujourd'hui un nouveau talent découvert sur YouTube. C'est le groupe Sanaza. Sanaza, il chante No Horizon. Alors, j'espère que c'est pas l'horizon de l'édition, dans une captation qui est légèrement aléatoire, mais qui est rigolote quand même. Très récente, septembre 2024, durant le tremplin première scène à la Maison Populaire de Montreuil. Love between invisible walls. I had to be afraid to survive. The dream of being an object of desire. Merci le groupe Sanza. Bon, on va pas écouter toute la... parce que c'est un long morceau. Je vous invite à aller voir sur YouTube, à écouter le groupe Sanza. C'est un jeune groupe, mais il a plein de super morceaux. On évoquait à l'instant donc les différents exemples de rencontres entre l'IA et l'édition. On voit que tout le monde n'est pas complètement pro IA dans le monde de l'édition. Pourtant, un grand groupe, donc le groupe Human 6, j'ai peur de bien le dire, a assumé par la voix de son directeur, et vous l'avez interviewé, le fait de se tester. Comment ils abordent cette question-là chez Human 6?
Chez Human 6, en fait, donc il l'aborde exactement de la même manière que les groupes de presse l'ont fait avant eux, donc dont on parlait, Axel Springer, le groupe Le Monde en France, qui vont plutôt que de se dire, et c'est vraiment typiquement la nouvelle manière de penser. Je pense que c'est vraiment le plus gros virage qu'on a pris là en un an. C'est que plutôt que d'aller contre l'intelligence artificielle, contre des énormes groupes qui, de toute manière, même si on fait des procès, hein, New York Times est en procès contre OpenAI, donc même si on fait ça, de toute façon, on ne peut pas aller contre des choses
parce
comme
que
ça.
La digue a des fissures. Quoi.
Exactement. Et donc ces groupes de presse ont décidé, et donc après j'en reviendrai à Human 6, de plutôt que de se faire avoir, de faire des deals pour vendre les données et créer un échange vertueux. On verra s'il est vraiment vertueux jusqu'à la rémunération des journalistes.
Oui, c'est accepté qu'en fait les boîtes d'IA utilisent en source de données d'entraînement les données. On leur fournit ces données-là, donc on accepte, mais on se fait rémunérer contre cette donnée.
Exactement.
D'entrée.
Ouais. Exactement, c'est ça. Et donc le groupe Human 6, qui est un des pionniers, je pense, dans la façon de essayer d'interagir avec l'IA. Ils ont fait des grands groupes où ils ont fait interviewer plein de monde d'acteurs de l'édition. Ils ont vraiment
Une étude aussi interne pour bien comprendre.
Exactement,
ouais,
exactement. Ouais. Ils ont vraiment réfléchi là-dessus et ils sont donc c'est un groupe d'édition et ils sont actionnaires comme d'autres d'autres personnes du monde de l'édition de la plateforme qui s'appelle Cairn, qui est une plateforme universitaire. Et Guillaume Montaigudet m'expliquait justement que lui, il imaginait quelque chose un petit peu sous le modèle de la presse, donc un modèle qui s'appellerait freemium, et qui permettrait de,
d'accepter que les données soient utilisées pour comme source déjà.
Oui, et dans un autre, il imaginait même aller plus loin, c'est-à-dire que je fais une requête sur ChatGPT, on me fait un petit résumé, et puis on me dit, si tu veux aller plus loin, va sur Cairn, parce que le document est là. Donc il imaginait que ça créerait une sorte de passerelle vers la plateforme, et de ne pas être obsolète dans un monde où, effectivement, les étudiants ne vont plus trop quand même aux bibliothèques. Et la plupart des documents, par exemple, je sais pas, j'imagine, je me souviens à la bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne, la plupart des documents qu'on nous propose, ou même dans la bibliothèque, sont des documents numériques. Donc ça, c'est important quand même.
Donc un deal en entrée, je vous donne mes données et vous me payez déjà pour ça. Et un deal en sortie, dans tous les résultats, si j'apparais, vous mettez aussi un lien vers chez moi.
Donc exactement.
Ça reste porte d'entrée, quoi.
Une proposition, c'est quelque chose...
C'est pas encore dealé, ça.
C'est pas du tout dealé, puisque Cairn a plusieurs actionnaires et Human 6 donc, est dans une phase de rachat lui-même. Enfin, voilà. Et il y a... tout un micmac interne qui est en train de se faire. Mais en tout cas, il y a cette volonté d'en parler, de le dire publiquement, et puis un peu de voir autour de la table si tout le monde est d'accord.
C'est une interview qui est récente, donc il n'y a pas vraiment de réaction du monde de l'édition à cette proposition, ou il y a déjà des réactions?
Non, il n'y a pas de réaction dans le sens où, voilà, comme je disais, du côté du Human 6, il y a d'autres choses qui nécessitent beaucoup plus de réactions, qui sont le rachat.
Bon, puis après, donc du coup, donc là, on voit bien les plaques tectoniques qui sont en train de bouger et les changements de paradigme potentiel. Et puis après, il y a la déferlante globalement de la générative IA qui permet finalement à tout un chacun. On en parlait en introduction avec Jérôme, potentiellement. Alors Jérôme, il a vraiment écrit son bouquin, je tiens à le dire. Mais du coup, il y a plein de gens qui se mettent à écrire des bouquins. En fait, notamment dans des domaines, voilà, vie pratique, bien-être. Et donc là, qu'est-ce qu'ils utilisent comme outil finalement pour publier et pour se rendre visible dans ce domaine-là? Comment on devient auteur?
Alors, il y a plein de manières de devenir auteur, ça dépend ce qu'on dit être auteur.
Avec l'IA, bien sûr.
Oui, voilà. Il y a effectivement beaucoup d'ouvrages qui sont publiés sur KDP, qui est la plateforme d'auto-édition d'Amazon.
Kindle Direct Publishing.
Exactement. J'évitais parce que je pense que mon accent est beaucoup moins bien que le vôtre.
Je suis pas sûr, mais bon.
Mais alors, ce qui est hyper rigolo, c'est qu'Amazon s'est lui-même fait avoir quand même sur cette espèce de vague à qui, je pense, ils ne s'attendaient pas, alors que quand même, ils sont ultra fort pour prédire les choses.
C'est un peu numérique, ouais.
Mais ils s'attendaient pas à avoir une vague de personnes. Alors, est-ce qu'on peut même imaginer que c'est des personnes, puisque Cette année, ils ont quand même fait un communiqué en demandant... Alors, je ne suis pas sûre que ça a été mis en place, mais ils l'ont quand même dit. Ouais. Réduire à 3 le nombre de livres écrits par un même auteur, je crois, par jour.
Publié par jour, d'accord.
Voilà, c'est ouais. ça. Donc, j'ai du mal à imaginer un auteur écrire de façon correcte 3 livres par jour, tous les jours, pendant un an. Ça me paraît énorme. Avec l'obligation aussi, soi-disant, de l'écrire d'ailleurs, enfin de signifier si c'est avec une IA ou pas.
Ouais.
Dernièrement, il y a eu une mini-enquête, je crois, sur... Radio France, où ils sont allés récupérer des soi-disant ouvrages écrits par des auteurs et qui n'étaient pas signifiés que ça a été écrit par une IA, alors que ça allait bien de toute évidence.
Ça se voit.
Voilà.
Ça se lit. Avec le fameux exemple de Alan Trevor, l'homme aux 1400 livres.
Exactement.
Sur la plateforme. Et je crois qu'il a été, finalement enlevé de
intercepté
de KDP parce que c'était vraiment très très mauvais. Et puis vous me disiez que sur les salons vous rencontriez aussi les lecteurs et qu'ils avaient aussi une appréhension particulière de ces écrits via IA.
Ouais, il y a
qu'est-ce que vous avez entendu sur
il y a un véritable le doute en fait qui s'est inséré. En un an, chez le lecteur et de façon générale, chez les lecteurs, pas forcément que de livres, mais aussi de copies de bac, d'examens, tout ça. C'est-à-dire qu'on ne sait, il y a vraiment un doute où les gens se disent, mais est-ce que c'est vraiment un humain qui a écrit? Comment puis-je savoir que c'est un humain qui a écrit? Et ce doute, il est vraiment curieux parce qu'en fait, on remet en doute notre propre capacité à être capable de distinguer l'humain de la machine. Donc même d'un point de vue...
Et on a peur d'apprécier finalement aussi quelque chose qui aurait été généré par IA.
De ne pas se rendre compte, de l'apprécier, éventuellement d'en faire la promotion, et tout d'un coup de se rendre compte qu'on s'est fait avoir.
On en reparlera ici à ce micro, mais dans différents domaines et pas que l'édition, les différents baromètres de confiance, notamment quand on pose la question de l'IA, commencent à montrer qu'il y a vraiment une chute très très importante. Et c'est peut-être un vrai enjeu, ça, la confiance autour de ce qui se produit avec l'IA. C'est super.
Bon, en fait, je peux vous poser une question, Pauline ?
Oui.
Enfin, vous écrivez pour Télarama, Pauline, à un moment donné... Si ça vous fait gagner du temps, si vous c'est trop long, ChatGPT raccourcis-moi ça, et que après vous repassez dessus et que parce que vous avez votre style, votre plume, vous, à un moment donné,
c'est toujours vous quoi.
Ouais, non.
Moi en fait, de toute façon, mais ça c'est un avis qui est très personnel, ouais. Mais ça ne personnellement ça me dérange pas, je l'utilise pas personnellement parce que je trouve que c'est très limité et d'un point de vue même politique, je trouve ça un peu particulier de demander à une entreprise, capitaliste, etc., d'écrire à ma place un papier qui critique certains systèmes.
Ouais.
Mais par contre, je trouve qu'il n'y a aucun problème de l'utiliser à partir du moment où la régulation, l'IA Act, sera mise en place et que les gens... qui ont été pillés soient rémunérés. En fait, c'est ça qui me pose problème. C'est d'utiliser gratuitement. C'est comme si on allait, je sais pas, voler des sacs et que ça posait aucun problème qu'on les vende dans la rue. Bah si, en fait, ces gens-là sont arrêtés et souvent ils vont en prison, malheureusement. Donc c'est ça, parce que c'est comme, je sais pas, on me dit souvent, mais du coup, le correcteur orthographique, c'est comme l'IA, etc. C'est un moyen numérique pour aider à l'écriture, sauf que là, le correcteur orthographique, enfin en tout cas celui qui ne comprend pas d'IAG, il rémunère les gens. Donc ça c'est ok, je pense.
Et c'est marrant parce que vous disiez, vous prenez cet exemple du sac. Je crois pas que tu aies évoqué une seule fois là en saison 1 le terme contrefaçon.
Peut-être avec Stéphanie Lecam justement quand on mais parle d'autorat ou de. Mais c'est vrai que oui, c'est pas un mot qui vient facilement quand on parle de ça, mais c'est le effectivement le parallèle il est assez vrai.
Ouais.
Mais écoutez, on va se quitter sur cette note qui est pas très positive, mais bon, on va vous remercier beaucoup pour votre participation et tout ce partage sur le monde de l'édition. On vous retrouve en fait, Pauline, sur dans les colonnes numériques de et pas que d'ailleurs de Livre Hebdo et de Télérama. Ben, merci beaucoup pour ce partage.
Merci à vous.
Et puis n'oubliez pas de liker cet épisode, parce qu'en fait ça manipule les algorithmes, et c'est cool de manipuler les algorithmes. Prenez quelques secondes pour nous mettre des étoiles et des pouces, vraiment ça nous aide beaucoup. Et restez sur 93.1 FM, sur Cause Commune, aiguisez votre curiosité avec nos autres programmes, écoutez par exemple Les Rayons Libres de Monsieur Sorel, ou allez lire son livre, Vélotaf, on l'a pas cité. Voilà, à bientôt.